À 23h30 ce soir-là, lorsque Anastasia rentra enfin chez elle, Jean-Bénédicte était parti depuis un bon moment. Macaire attendait dans le salon le retour de sa femme. Il avait besoin de lui parler du dîner de jeudi. En l'entendant pénétrer dans le hall d'entrée, il s'y précipita pour l'accueillir. « Bonsoir, Chouchou. Tu as passé une bonne soirée ?» Pour toute réponse, Anastasia, le visage fermé, claqua la porte d'entrée et grogna. Elle était visiblement de très mauvaise humeur. « Je vais me coucher, » dit-elle en se dirigeant directement vers l'escalier. Le temps que Macaire éteigne les lumières du salon et la rejoigne dans la chambre, elle s'était enfermée dans la salle de bain. Il frappa doucement à la porte. « Je voudrais juste me brosser les dents, » dit-il pour qu'elle ouvre. De l'autre côté de la cloison, Anastasia fit semblant de ne rien entendre. Elle ouvrit le robinet à fond et s'assit sur la cuvette des toilettes. Lev lui avait posé un lapin. Elle l'avait attendu pendant des heures, comme une idiote. Elle avait essayé de le joindre sur son portable, à l'hôtel. Elle avait laissé des messages. Rien. Pas la moindre nouvelle. Elle se détestait d'y avoir cru. Elle se détestait de s'être tant réjouie. Elle ne savait plus si elle était triste ou furieuse. Et maintenant, Macaire qui voulait discuter. Elle ne sortit de la salle de bain que lorsqu'elle fut prête à se coucher. Macaire s'y précipita pour se brosser rapidement les dents et pouvoir discuter ensuite avec sa femme. Mais elle se jeta dans le lit et se recroquevilla sur elle-même, faisant semblant de dormir pour éviter de devoir faire la conversation avec son mari. Lorsque Macaire réapparut en pyjama, il trouva sa femme tournée sur le côté, en chien de fusil. « Tu dors déjà, chouchou ?» demanda-t-il en se glissant dans les draps. Elle ne répondit pas. Dans le doute, il décida de parler à son dos. « Tu sais, il y a eu un petit souci à la banque aujourd'hui. Tarnogol m'a passé un savon. Il dit qu'il ne me confiera pas la présidence de la banque. Enfin, il me reste encore quelques jours pour le convaincre que je suis l'homme de la situation. À ce propos, peux-tu réserver ta soirée de jeudi ? Il y a le dîner de l'association des banquiers genevois à l'hôtel des Bergues. Jean-Béné et Charlotte nous laissent leur place. Enfin, bref, il y a ce dîner, et c'est très important. « La barbe !» songea-t-elle en s'efforçant de rester totalement immobile. Encore un de ces ridicules dîners de banquiers. Macaire lui demanda alors, « Dis, chouchou, s'il n'était pas président de la banque, est-ce que tu m'aimerais quand même ?» Elle ne bougea pas. Elle dormait certainement déjà à point fermé. Tant pis pour la réponse. Il était triste. Il sentait bien que sa femme ne faisait plus attention à lui. Il croqua un somnifère et s'endormit rapidement. Elle ne dormait toujours pas lorsque les ronflements de son mari emplirent la chambre. Elle se tourna vers lui et contempla son gentil dormeur. Elle se trouva méchante. Elle était fâchée contre Lev et c'est Macaire qui en payait le prix. Elle irait à cette soirée jeudi et elle l'aiderait à faire bonne impression sur Tarnogol. L'aimerait-elle toujours s'il n'était pas élu président de la banque? Président ou pas, il y avait longtemps qu'elle n'éprouvait plus de passion pour lui. On avait-elle même jamais ressenti à son égard? Ce qui l'avait séduite, c'était sa gentillesse. Sous des apparences parfois rustres, Macaire était un homme foncièrement bon, à l'esprit droit et au cœur généreux. Lorsqu'elle avait accepté la demande en mariage de Macaire, elle était si jeune, tellement perdue. Elle avait un besoin vital de gentillesse. Elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Besoin de panser les plaies de sa vie. Besoin de fuir loin de sa mère. Macaire était un homme qui ne lui ferait jamais de mal. Toujours petit soin pour elle, à se plier en quatre pour elle. Mais les hommes qui se plient en quatre sont des hommes conquis et la passion ne survit pas à la conquête. Aujourd'hui, elle avait besoin de passion. Elle avait 37 ans, encore toute la vie devant elle. Une vie qu'elle ne se voyait plus partager avec Macaire. Elle voulait des enfants, mais pas avec lui. Elle s'en rendait compte à présent. Pendant toutes ces années, elle avait pris la pilule en secret en pensant que c'était à cause de sa mère qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Et Macaire qui était allé voir tous les spécialistes de la ville, convaincu que c'était lui le problème. Mais voilà que maintenant elle se surprenait à rêver d'avoir un enfant avec Lev. Pourquoi diable Lev lui avait-il fait faux bond ce soir? Se moquait-il d'elle? Et si elle quittait Macaire et que ça ne marche pas avec Lev, elle se retrouverait sans rien. Le dénuement était sa plus grande peur. Elle essaya de se rassurer en songeant qu'elle trouverait un emploi, elle se débrouillerait. Elle vivrait une vie modeste, sans mensonge. Au fond, tout ceci n'était qu'un grand mensonge, à cause de sa mère. Elle devrait peut-être aller consulter ce docteur Kazan dont Macaire ne cessait de dire monts et merveilles. Il pourrait certainement l'aider à y voir plus clair. Toutes ces pensées entretenaient son insomnie. Macaire, lui, en jugé par ses ronflements, dormait profondément. Elle décida d'aller à la cuisine se faire une tisane. Avant de quitter la chambre, elle se saisit du petit pistolet doré qu'elle gardait au fond du tiroir de sa commode. Elle avait peur la nuit dans cette grande maison. Il y avait déjà eu des cambriolages dans le quartier. C'était Macaire qui lui avait acheté cette arme il y a 2 ou 3 ans, après que les voisins eurent été visités pendant leur sommeil. Il voulait qu'elle se sente en sécurité lorsqu'il s'absentait pour ses voyages d'affaires. Il avait même fait graver Anastasia sur la crosse. C'était un bel objet. Elle glissa l'arme dans la poche de sa robe de chambre et descendit à la cuisine. L'aimerait-elle toujours s'il n'était pas élu président de la banque? Mais depuis la veille du décès du père et Besner, elle savait qu'il ne serait pas président. Elle repensait souvent au dernier soir d'Abel et Besner. Environ une année plus tôt, début du mois de janvier, le médecin avait appelé Macaire et Anastasia au chevet d'Abel, ne lui pronostiquant plus que quelques heures à vivre. En pénétrant dans la grande maison patricienne de Collonges-Bellerive, Anastasia fut frappée par cette odeur de mort qui avait envahi les lieux. Abel était dans son lit, sec et raide, mais l'esprit encore alerte. Elle l'embrassa sur le front, il lui prit la main et lui fit un compliment, comme toujours. Ils se sourirent affectueusement. Elle s'était toujours très bien entendue avec son beau-père. Après avoir embrassé encore une fois Abel sur le front, elle quitta la pièce pour laisser un moment d'intimité entre Macaire et son père, mais comme elle était restée derrière la porte entrebâillée, elle avait tout entendu de leur dernière discussion. Abel et Besner prit le ton désagréable qu'il employait avec son fils et lui dit
« Me voilà au terme de ma vie. Si j'en fais le bilan humain, je n'ai eu qu'un enfant et ça a été toi. Si j'avais su, j'aurais essayé d'en faire au moins 2. Tu as donné beaucoup de chagrin à ta mère, tu sais. Paix à son âme. »
J'ai essayé de faire de mon mieux, papa.
Eh bien, tu aurais pu t'appliquer davantage.
Désolé, papa.
C'est facile d'être désolé, mais ça n'arrange rien. Enfin bref, au moment de partir pour de grandes vacances, je voulais te parler de la présidence de la banque.
Je t'écoute, papa, dit Macaire, laissant transparaître dans sa voix une pointe d'excitation.
Tu te doutes bien que je ne vais pas laisser Tarnogol en prendre les rênes. J'ai donc prévu dans mes dernières volontés d'interrompre le mode de transmission de la présidence qui a toujours prévalu au sein de la banque depuis Antiochus et Besner et, pour la première fois en 300 ans d'existence, décider moi-même de ma succession, ainsi que mes pouvoirs de président me le permettent.
C'est une très bonne idée, papa,
le félicita Macaire d'une voix de petit chien qui attendait sa récompense.
Ça ne sert à rien de me cirer les pompes, Macaire. Je ne te nommerai pas président. Tu m'as humilié comme jamais il y a 15 ans en cédant les actions que je t'avais léguées à Tarnogol. Tu as déshonoré ton nom et ta famille en laissant entrer au conseil ce cinglé, ce type sans manière et sans vergogne qui pue l'argent sale. Je te le ferai payer toute ta vie. Et évidemment, il est hors de question que Tarnogol ou ton idiot de cousin Jean Bénet ou encore moins son arrogant de père devienne président. J'ai donc décidé que c'est le conseil de la banque qui nommerait mon successeur sans que cela puisse être l'un d'eux. Comme ça, je peux partir en paix. Quant à toi, je t'ai déjà donné énormément d'argent. Je t'ai payé ta gigantesque baraque. Tu as hérité de ta mère. Tu vas hériter de tout ce que j'ai. Tu es à l'abri pour le restant de tes jours et même pour quelques générations, pour autant que vous ayez des enfants un jour, Anastasia et toi. Et puis, tout ça, c'est sans compter le pactole que tu as pu te faire en revendant tes actions à cette ordure de Tarnogol. Tu sais, au fond, c'est ce qui m'a le plus déçu chez toi. Que tu sois aussi vénal. À peine t'avais-je offert mes actions que tu les revendais au plus offrant.
Je n'ai pas vendu mes actions, papa. Je te l'ai toujours dit. Je n'aurais jamais fait ça. Ça n'a jamais été une histoire d'argent.
Difficile de te croire, Macaire, fit remarquer le père. Parce que tu n'as jamais voulu m'expliquer pourquoi ni à quelles conditions tu as cédé tes actions à Signor Tarnogol, si ce n'était pas pour de l'argent.
Tu me prendrais pour un fou, papa, répondit Macaire d'une voix triste. Il s'était levé de sa chaise et avait embrassé son père sur le front pour un dernier adieu. Le sifflement de la bouilloire arracha Anastasia à ses pensées. Elle versa l'eau dans une théière, puis mit de la tisane à infuser. Elle repensait souvent à cette dernière scène entre Macaire et son père. Contre quoi avait-il bien pu échanger ses actions de la banque? Il ne l'avait jamais révélé à quiconque, pas même à elle. Abel était décédé peu après qu'ils eurent quitté la maison, comme s'il avait attendu pour mourir seul. Anastasia songea qu'Abel avait toujours été un homme très entouré, très sollicité, mais au fond très seul. Ses funérailles n'avaient pas échappé à la règle. La cérémonie avait eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre par un matin glacial. Les lieux débordaient de monde. Curieux, amis, officiels de la ville et du canton, membres de la haute société genevoise, représentants des différentes banques du pays. Il fallait en être. Puis, selon les volontés d'Abel, l'enterrement avait eu lieu dans la plus stricte intimité. Seules trois personnes avaient accompagné le défunt au cimetière Saint-Georges. Macaire, Anastasia et Lev. Anastasia n'oublierait jamais ce moment. Ils étaient tous les trois côte à côte à assister dans le silence le plus total à l'ensevelissement du cercueil. Soudain, Lev, sans que Macaire ne le remarque, lui avait pris la main. Elle s'était sentie frémir. Cela faisait 15 ans qu'il ne s'était plus adressé la parole. Ce jour-là, lorsque sa peau avait touché la sienne, elle s'était sentie plus vivante que jamais. Ce jour-là, ils s'étaient enfin retrouvés, après 15 longues années. Debout dans sa cuisine, elle buvait sa tisane, le regard perdu à la fenêtre. Elle se demandait où était Lev. Elle essaya de se convaincre qu'il avait eu une très bonne raison de lui faire faux bond, un rendez-vous très important, quelque chose de très sérieux, aux Nations Unies peut-être. Il n'avait pas pu téléphoner, il y avait forcément une bonne raison. Elle ne pouvait pas voir à la limite de la propriété, assis à califourchon sur une branche d'un énorme cèdre, l'homme qui épiait à distance la cuisine éclairée, une paire de jumelles vissées aux yeux. « Elle a l'air triste », murmura Lev depuis son perchoir à Agostinelli qui faisait le guet de l'autre côté du mur d'enceinte.
« Vous devriez descendre maintenant, monsieur », répondit le chauffeur qui n'avait pas l'air rassuré. « Vous risquez de vous faire mal, et puis si on nous surprend, vous aurez l'air malin. »
Lev obtempéra et quitta son poste d'observation de la même façon qu'il s'y était hissé. Tout en restant assis sur la branche pour plus de stabilité, il se déplaça lentement, à la force de ses bras, sans se préoccuper des dégâts sur son pantalon, jusqu'à atteindre le tronc de l'arbre, lequel touchait presque le mur d'enceinte. S'accrochant au tronc, il se redressa sur ses pieds et passa sur la tranche du mur, dont il descendit facilement en prenant appui sur le toit de sa voiture garée contre. Agostinelli lui demanda alors
« Si je puis me permettre, monsieur, pourquoi avoir posé un lapin à Anastasia pour passer ensuite votre soirée à l'observer de loin? Vous aviez visiblement tous les deux envie de vous voir. »
« Il le fallait, Alfred, » répondit Lev. « Savez-vous pourquoi l'amour est un jeu si compliqué ?»«
Non, monsieur. »
« Parce que l'amour n'existe pas. C'est un mirage, une conception de l'esprit. Ou alors, si vous préférez, l'amour n'existe potentiellement que s'il ne se concrétise pas. Il est une émanation de l'esprit, fait d'espoir, d'attente et de projection. Que se serait-il passé si j'avais rejoint Anastasia? Elle se serait peut-être ennuyée, aurait trouvé ma conversation fade. Peut-être me serais-je coincé un peu de salade entre les dents et elle aurait eu une image différente de moi.
Ou peut-être pas, monsieur,
objecta Agostinelli. Alfred, vous le savez comme moi. Cette soirée a été parfaite parce qu'elle n'a pas eu lieu.
Mais, monsieur, pourquoi tenez-vous tant à ce que cela soit parfait?
Parce que cela fait 15 ans que j'attends ce moment, Alfred. 15 longues années.
Que s'est-il passé il y a 15 ans?
Il y a 15 ans, j'ai commis la plus grave erreur de ma vie. comme ce pauvre Macaire. Le même jour, lui et moi avons tous les deux pris une décision qui a gâché nos vies.